Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. L'émission explore les dimensions juridiques et philosophiques de la doctrine des droits de l'homme. C'est un corpus de textes qui dépend des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l'homme et les pactes jumeaux de l'ONU sur les droits civiques et politiques et les droits économiques et sociaux. Grâce aux explications de nos experts invités, nous analysons l'application de ce droit dans le droit interne, notamment en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une avocate avec une pratique des droits de l'homme, mais aussi du droit international humanitaire et du droit des réfugiés. Maître Louise Dumas Paoli, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer votre cursus du droit et ce qui vous a amené à vous intéresser aux droits de l'homme ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait des études de droit à Marseille au départ parce que c'est une ville dont je suis originaire. J'étais dans une classe prépa qui s'appelle ENS Cachambéen, qui doit toujours exister aujourd'hui, qui forme les jeunes étudiants pour normalement intégrer l'école normale supérieure. Donc moi, j'ai fait cette classe préparatoire en parallèle de mes études de droit, où j'avais mes partiels et les TD, comme les étudiants de droit classique. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être ma voie, parce que j'avais vraiment envie d'ores et déjà de partir dans les relations internationales et les droits de l'homme. Donc en troisième année, je suis partie à l'étranger en Angleterre, faire une licence de droit là-bas toujours. Mais on va dire que ce qui était plus intéressant par rapport au cursus français, c'est qu'en Angleterre, on a la possibilité d'intégrer d'autres matières que le droit. Et moi, j'avais adoré l'anthropologie parce que c'était intéressant de voir justement comment les peuples interagissaient et comment ils vivaient dans d'autres cultures que la nôtre. Et ensuite, j'ai fait un master en droit international public, où là, je suis tombée amoureuse du droit international pénal et du droit humanitaire. Et ensuite, j'avais fait un Master 2 au Canada, où j'avais pu vraiment étudier le droit des peuples autochtones. Ça m'avait passionnée. Voilà.
Ok. Alors, justement, vous avez étudié dans les deux systèmes juridiques, droit civil et common law. Quelles sont, selon vous, les différences majeures entre les deux approches au droit ?
Bah, c'est des différences déjà, bon, évidemment, procédurales, si on veut vraiment être techniques. On va dire que des souvenirs que j'en ai et de la pratique, en tout cas, c'est vrai que le droit français, on a quand même un droit qui est plus écrit. On a plus, c'est codifié depuis les codes Napoléon, alors qu'effectivement, le droit de la common law, c'est plus sur la case law, donc la jurisprudence, même si on en a aussi en France. Et après, il y a beaucoup de points qui sont divergents, notamment dans le droit pénal, où on a des procédures accusatoires et inquisitoires qui sont assez différentes. Mais bon, je ne suis pas non plus là pour donner un cours de droit. En tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir s'immerger dans les deux types de culture juridique, et ça enrichit nécessairement sa pratique, surtout lorsqu'on fait du droit international pénal, puisque souvent on est amené à travailler dans des contextes internationaux, notamment dans des juridictions telles que la Cour pénale internationale ou d'autres tribunaux, où les deux systèmes sont mélangés.
Tout à fait. Alors, après avoir prêté serment, vous avez travaillé au tribunal de l'ONU pour le Cambodge. Quel a été votre rôle ?
Alors, lorsque je travaillais au tribunal pour le Cambodge, comme vous l'appelez, donc c'est les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, là, je travaillais auprès du procureur. En fait, cette cour, elle est assez intéressante parce que c'est une cour hybride qui mêle à la fois le droit national, donc le droit khmer, droit cambodgien, et également, effectivement, il y a une partie des professionnels de droit qui sont recrutés par l'ONU et qui sont internationales. Donc, la particularité, c'est qu'à chaque fois, il y a deux juges. Moi, je travaillais auprès du procureur et il y avait un procureur cambodgien et un procureur international. À l'époque où j'y étais, c'était une personne qui venait d'Allemagne. Et mon but était donc de travailler auprès de ce procureur.
Ok. Et comment vous avez trouvé les interactions entre ces deux systèmes de droit ?
Alors, Dans la pratique, c'était un petit peu compliqué parce que en fait, il s'avère que moi, je m'attendais à ce que les Cambodgiens et les internationaux travaillent main dans la main. Et en pratique, c'était plus compliqué que ça. Donc, j'ai été un petit peu déçue de cette cour qui était censée être hybride et qui n'était pas vraiment. Mmh. Je pense que c'était peut-être un problème culturel avant tout. Mais c'est vrai que... Ou alors peut-être au moment où moi, j'ai intégré la cour était quand même sur la fin. On parle quand même de crimes qui sont passés entre 75 et 79, donc il y a fort longtemps, je n'étais même pas née, hein, à vrai dire. Ça aussi, c'est particulier. Et donc, peut-être que c'est le moment où j'ai intégré la cour qui fait que je pense que c'était pas la période la plus faste de cette cour. Et donc, on va dire que les synergies entre équipes n'étaient pas au beau fixe.
Ok. Ben, le droit pénal international fait partie du droit international humanitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs la différence entre le droit humanitaire et les droits de l'homme?
Oui, tout à fait. Donc, le droit humanitaire, il est issu des conventions de Genève. Et en fait, c'est vraiment toutes les règles qui ont trait au conflit armé. Donc ça, c'est le droit humanitaire. Tandis que les droits de l'homme, c'est des droits qui sont plutôt des droits civiques et politiques qui émanent des pactes onusiens dont vous avez fait référence dans votre introduction et qui du coup sont plus la liberté d'expression, le droit de vote, tous les pactes civils et politiques sont des droits de l'homme.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a peut-être une petite distinction entre le temps de paix et le temps de guerre.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est que les droits de l'homme sont applicables en temps de paix et le droit humanitaire, de toute façon, concerne vraiment le conflit armé.
Oui. Alors, vous étiez aussi à la sous-direction des droits de l'homme et des affaires humanitaires au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En quoi consistait votre poste?
Alors oui, en fait, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai d'abord intégré, comme vous le dites, à la sous-gouvernance démocratique. Donc là, c'était un premier rôle qui tendait plutôt à faire valoir le système judiciaire comme on connaît en France et parler de la culture des droits de l'homme en France. Donc ça, c'était mon premier poste. Et ensuite, effectivement, lorsque je travaillais au sein de la direction des Nations Unies, des organisations internationales, là, j'étais vraiment en charge des questions de justice pénale internationale, ce qui fait que ça m'a amenée à travailler beaucoup sur la Cour pénale internationale, mais aussi sur les tribunaux pénaux internationaux, et de réfléchir à la place de la justice pénale internationale dans le monde. Et aussi, j'avais quand même pas mal de missions en termes de droits de l'homme, notamment au sein de l'Union européenne, avec la montée des extrémismes dans certains pays de l'Union européenne. Et voilà, c'était à peu près ça mon rôle.
Ok. Et finalement, qu'avez-vous appris pendant vos 2 années auprès des maîtres Zimré et Finel?
Alors, ma première expérience en tant qu'avocate, effectivement, était au sein du cabinet Zimré et Finel. Ce sont deux avocats qui sont passionnants. Donc, maître Zimré, lui, il est avocat depuis très longtemps. Et il a aussi eu un rôle d'ambassadeur des droits de l'homme au sein du ministère des Affaires étrangères français. Mmh. Et il a également été ambassadeur au Danemark. Donc, maître Zimré, lui, il a eu vraiment une dimension très diplomatique. Et Jessica Finel, son associée, est une grande pénaliste qui a été formée par le bâtonnier Pierre-Olivier Schur et qui, effectivement, a un volet international aussi puisqu'elle a défendu beaucoup de personnalités à travers le monde et notamment en Afrique. Et donc, grâce à eux, j'ai pu apprendre comment gérer des dossiers d'envergure internationale et me perfectionner au niveau juridique.
Ok. Alors, je voudrais maintenant, si vous voulez bien, venir au procès du 13 novembre à Paris.
Oui, oui.
Quel a été votre rôle lors de ce procès?
Alors, lors de ce procès, en fait, j'ai intégré une équipe d'avocats qui avaient apporté leur concours à des victimes lors des attentats de Paris qui ont eu lieu en 2015. Et en gros, j'ai donc moi j'ai intégré cette équipe qui venait défendre des victimes des attentats.
Ok. Et ça devait être assez impressionnant de faire partie d'un procès aussi historique, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'était une expérience très enrichissante. Donc déjà, ce qui est vrai, c'est que ce procès, c'était le procès le plus long de l'histoire française, qui s'est étendu pratiquement sur une année. Donc c'était très long. Et effectivement, on était plus de 300 avocats lors de ce procès, avec en majorité des avocats de partie civile. Et évidemment, on a vécu une expérience humaine assez mémorable et ça a été très très impactant, je pense, pour nous tous et surtout pour nos clients qui ont dû revivre des moments comme vous pouvez l'imaginer assez vifs et cruels en termes d'intensité émotionnelle. Et donc, à cet égard, il y a eu plusieurs types de réactions lors de ce procès et ça a été chargé en émotion, ça on peut le dire.
Tout à fait. Alors, vous avez aussi un volet environnemental dans votre pratique. Alors, s'agissant du Pacte mondial de l'environnement, y a-t-il un droit de l'homme pour l'environnement?
Alors, ça c'est une très bonne question. Effectivement, donc quand j'ai intégré cette équipe sur le Pacte mondial pour l'environnement, justement, c'était une des questions centrales. Et vous savez sûrement, il y a ce fameux droit à un environnement sain. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que au niveau juridique, je trouve, d'un point de vue personnel et dans la pratique que j'ai pu éprouver, que ce n'est pas si clair que ça, et surtout ce n'est pas si concret. Donc on y vient peu à peu, parce que quand même au niveau national, maintenant, il y a un certain nombre de lois qui sont édictées, mais c'est vrai qu'il y a le principe de précaution, il y a un certain nombre de choses qui viennent s'agrémenter, mais ce n'est pas si simple. Je ne suis pas spécialisée dans le droit d'homme et de l'environnement, mais je trouve que c'est une question qui est cruciale et qu'il faut absolument creuser, justement, qui fait partie des gros points de l'avenir des droits de l'homme.
Oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu la question du droit à logement. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a effectivement un droit à avoir un logement, déjà? OK. Alors, depuis que vous êtes avocate indépendante, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes intervenue?
Alors, donc, depuis que je suis avocate indépendante, je continue à exercer dans le domaine des droits de l'homme. Je continue aussi à exercer dans le domaine du droit pénal international et j'exerce aussi au niveau pénal, en droit pénal national et en droit d'asile.
D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple d'affaires dont vous pouvez nous parler?
Oui, bien sûr. Eh bien, il y avait une affaire donc au niveau du droit pénal international, l'opération Sirli, qui est une opération qui a eu lieu entre la France et l'Égypte de renseignements militaires à la frontière avec la Libye. Et il y a eu un dépôt de plainte dans ce dossier qui a été fait en France. Sur justement des complicités de crimes contre l'humanité et des crimes contre l'humanité.
Okay. J'ai vu que vous avez travaillé avec des collègues anglais. Est-ce que c'était pour cette affaire-là?
Oui, tout à fait. Avec ma consoeur Heidi Dacital, qui est effectivement à la fois dans un barreau américain et anglais.
D'accord. Alors, de quelle manière avez-vous collaboré?
Eh bien, en fait, nous avons collaboré Heidi Dacital, qui est une éminente avocate effectivement d'Angleterre et aux États-Unis, m'a contactée pour qu'on puisse effectivement déposer cette plainte au niveau français. En parallèle, on a saisi aussi des rapporteurs de l'ONU sur ces questions-là. Et donc on a collaboré toutes les deux sur ce dossier, sur les deux fronts en même temps.
Ok. Et est-ce que vous avez été déjà été amené à travailler sur les questions de l'euro méditerranéenne et, Et quel est votre point de vue sur la création éventuelle d'une zone de droit qui inclurait l'Europe et la zone méditerranéenne?
Alors, je n'ai pas travaillé directement sur ce sujet-là, mais je pense que dans ma pratique quotidienne au niveau du droit d'asile, je trouve que évidemment, ça serait plus que nécessaire de poursuivre cette vision de donc comment vous l'appelez, vous dites que ça a un nom spécifique?
Il y a déjà la coopération euro-méditerranéenne. Et j'ai vu qu'au sein de l'Union européenne, il y avait peut-être une proposition de créer une zone plus élargie.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'ils vont poursuivre en fait la coopération. Moi aussi, je l'ai vu. Après, je ne suis pas une spécialiste. Mais évidemment, j'estime que c'est plus que nécessaire à une époque où, de toute façon, on voit tous les jours dans l'actualité les problèmes de migration et notamment en passant par la Méditerranée. Donc évidemment, le droit d'asile étant devenu quelque chose qui a été saisi par l'Union européenne de par les diverses directives, notamment les règlements Dublin, je pense que ne serait-ce que en voyant ce biais-là, qui est mon biais de professionnel du droit sur le droit d'asile, je pense que la coopération est nécessaire et doit être élargie.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons évoqué souvent dans cette émission la question de la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous avez déjà été amené à plaider devant cette Cour?
Alors, pas encore, mais c'est possible avec justement le dossier dont je vous parlais. Mais pour le moment, non, je n'ai jamais plaidé devant cette Cour. Je n'ai pas eu encore cette chance.
OK. Est-ce que, en termes de, comment dire, sa position dans la hiérarchie des normes par rapport au droit national et par rapport au droit international, comment vous trouvez la position de la Cour européenne des droits de l'homme?
La Cour européenne des droits de l'homme, elle est très intéressante à étudier, notamment quand on étudie les droits de l'homme, parce qu'elle est pionnière et qu'elle est au niveau de la hiérarchie des normes. Quand vous posez la question, elle est littéralement entre le droit national et le droit international simple, parce qu'effectivement elle est plus contraignante et que c'est un vrai modèle, je pense, à l'échelle mondiale, parce que c'est une cour qui a réussi à justement avoir des effets contraignants sur les États, ce qui est remarquable.
Oui, tout à fait. Alors, cette même cour, elle a souvent été amenée à traiter des questions relatives à l'article 9, c'est-à-dire la liberté religieuse. Et dans cette rentrée, il y a eu toute une polémique autour du port de l'abaya. Je pense que vous l'aurez suivi. Qu'est-ce que vous pensez pourrait être le rôle de la cour éventuellement si toutefois elle a été saisie de cette question?
Ben, je pense que la Cour aurait toute sa place pour être saisie à propos de cette question-là. Et ce que je pense, sans à mon avis trop m'égarer, c'est qu'elle rappellerait les principes fondamentaux de la laïcité. Et je pense que la liberté, la liberté de se vêtir et de croire, etc., mais je pense, n'est pas en contradiction avec la laïcité.
Oui, sauf que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas vraiment de principe de laïcité.
Non, c'est alors, vrai. Ouais.
Il y a la liberté religieuse et puis les exceptions qui sont possibles. Et je sais que dans d'arrêt précédent, ils ont fait mention de l'exception française en disant qu'en droit français, on peut légitimement interdire certains signes religieux par rapport à la laïcité. Mais ça m'intéresse de savoir si à l'avenir, elle changerait éventuellement d'avis sur cette question.
Alors ça, je ne sais pas. Après, on n'est jamais trop à l'abri parce qu'il y a déjà eu des changements de position, etc. Oui. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des arrêts fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont suivis. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment eu à travailler, donc je suis pas experte. Mais je pense qu'effectivement, je me rappelle de l'arrêt auquel vous faites référence. Et effectivement, il paraîtrait peu probable que la Cour change son fusil d'épaule.
Oui, je pense aussi. Mais c'est quand même comment dire, c'est impressionnant la façon dont cette même question revient à chaque rentrée et que j'avais moi-même écrit un mémoire là-dessus il y a une vingtaine d'années et ça revient encore et encore. Ce serait bien de trouver une résolution au problème.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être intervenu dans notre émission.
Ben avec plaisir. Merci à vous de cette invitation.
Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de s'entretenir à d'autres occasions.
Ben avec plaisir. Avec plaisir, j'espère aussi. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. C'est super.
Merci beaucoup.
Et puis peut-être à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.